pendant ce moment, Seigneur Jésus. Papa, Seigneur, il va apporter, Seigneur, mon Dieu, ta parole, Seigneur. Fais-lui du bien, Seigneur Jésus. Que vraiment, Seigneur, nous bénissons, mais que toi seul, tu apparais, Seigneur, sois, oh roi des rois, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, sois le seul, Seigneur Jésus. La seule, Seigneur Jésus. Le seul, Seigneur, à parler, Seigneur, dans son as, à travers de lui, Seigneur. Qu'il ne soit qu'un instrument, Seigneur, pour toi. Au nom de Jésus. Amen.
Ta parole est une lampe allumée, une lumière, ta parole est une lampe allumée, une lumière sur mon sentier.
Amen.
Amen.
Donc, ayez vos Bibles. Vous voyez que rien n'est affiché, hein, voilà, chaque fois ça arrive comme ça. Voilà, ceux qui s'appuient sur ça, parfois, ils sont dans le mur. Il faut toujours avoir son effet quand c'est possible avec soi, parce que c'est ton effet.
Seigneur, nous voulons, je veux me remettre sous ton regard, sous ton autorité. Seigneur, dans ces moments que tu nous donnes, ensemble, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir la comprendre, la mâcher, la digérer. Et grandir en toi. Seigneur, je te remets chacun de mes frères et sœurs ici présents. Tu les prépares, Seigneur, à écouter. Tu prépares leur cœur, leurs oreilles spirituelles pour comprendre. Pour que, Seigneur, ils puissent sortir différents de ce qu'ils sont rentrés ce matin.
Amen.
Pour ta gloire, Seigneur Jésus.
Amen. Amen.
Vous vous rappelez, la parole est une lumière à mes pieds.
Amen.
Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, on avait fait quelque chose de particulier, c'est un psaume. Hein. On avait fait des chaussures qui étaient en bout, en forme de lampe à huile. Et au bout de chaque lampe, il y avait une mèche qui brûlait. Pour ça, quand vous marchiez, vous voyez le chemin. Donc, quand on prend ce verset-là, on pense à autre chose. Hein, mais le psalmiste, quand il a écrit, il savait pourquoi il écrivait ça. C'est d'ailleurs le verset que j'avais donné à Brice, ils étaient là, Brice et Emmanuel, pour leur mariage. Je ne sais pas si vous vous rappeliez. En tout cas, je vous salue tous.
Amen.
Bon shalom.
Amen.
Ça me fait plaisir de revenir dans la maison. Hein,
comme Amen.
Vous ne m'avez pas vu pendant longtemps, au moins deux mois. Sachez que je ne vous ai pas oublié. Et que c'est toujours un plaisir de revenir. Cette église m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et vous savez comment elle m'a beaucoup, beaucoup apporté? Par la louange. La louange, c'est quelque chose qui cicatrise. Hein. Moi, je suis arrivé ici, j'étais blessé. Quand je suis arrivé ici, il y a quelques années en arrière, j'étais vraiment blessé. J'avais vécu des choses difficiles dans ma vie. Mais par votre biais, par le biais de cette assemblée, par la louange que vous avez donnée et que vous continuez à donner, ça a vraiment guéri mon cœur plusieurs fois. Seigneur, vous avez utilisé dans ce sens-là. Et quand je suis loin, moi, je ne suis pas là, que je ne viens pas, le manque que j'ai, là, c'est cette louange-là.
Amen.
La première chose qui revient en moi, j'ai dit... Même quand je vais dans les autres églises, hein, je vous dis franchement, c'est arrivé d'aller dans d'autres églises, dans mes voyages, et je me dis vraiment, ce qui me manque, c'est la louange de mes frères. On n'est pas nombreux ce matin, hein, mais la louange m'a fait beaucoup de bien.
Gloire à Dieu.
Beaucoup, beaucoup de bien.
Amen.
Ça vous masse. C'est vous. J'ai l'impression chaque fois que cet esprit vient, il me chatouille, là, il me masse, me fait du bien, ce qui m'a été, mes blessures sont partent avec la louange. Ça tombe bien, ce matin ça ne marche pas, j'avais prévu. Donc je vous ai amené de quoi lire. Donc je vais vous distribuer. Ce matin je voudrais parler d'un sujet qui est la liberté. On entend parler dans notre monde, hein, de la liberté. Mais je voulais vous parler un petit peu de ça, de ce qu'est la liberté en Christ, de ce qu'il en est. Et dans mes recherches, dans mes études, dans ma réflexion, j'ai mis des versets comme ça, plusieurs versets sur lesquels dans ma vie j'ai pris que j'ai... Ça a été pour moi des encres. Donc je vous les ressens, mais dans un ordre aléatoire, complètement aléatoire. Je vais vous les distribuer. Et puis on va essayer de parler un peu entre nous, hein, on n'est pas nombreux. On va essayer de mettre ça dans un ordre. Et puis après, on va expliquer chaque verset et rentrer un petit peu dans ça. C'est peut-être pour certains des choses que vous savez, C'est des choses que, mais, voilà. Vous voulez faire ça comme ça.
Merci.
Oui, vous allez pouvoir partir avec, hein. Je ne vais pas vous les reprendre.
Voilà, merci.
Non, c'est toujours bien de partir avec la parole de Dieu.
Tu vas partir avec le ciel. Là, tu te retrouves tout seul devant Dieu, c'est tout seul, c'est pas avec la fille. C'est marrant, hein, parce que les enfants, là, ils sont tout petits, ils se cachent derrière. Non, pas. Mais après, c'est les parents qui se cachent derrière les enfants. Toi, je sais que t'as niqué. Le temps de lire, vous pouvez les lire, il nous dit pourquoi il nous donne ça, qu'est-ce qu'il veut venir, je vais chercher moi celle qui est dans le bon ordre, moi j'ai mis dans un bon ordre, enfin dans un ordre pour ce matin. Alors on va prendre le départ de cette étude, on va dire un petit peu, c'est le premier verset qui est Galates 5, verset 1, moi je l'ai mis en premier, je ne sais pas si je vais y arriver à tout faire, mais si c'est magnifique, ça tient. Galates 5, verset 1. Alors, c'est une version un peu rajeunie, on va dire, que j'ai mis sur le papier. Mais maintenant, libéré du péché, devenu esclave de. Pardon, ce n'est pas le Romain. Ce n'est pas Galates 5, 1, pardon, je me suis trompé de feuille. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Qu'est-ce que vous pensez de la liberté en Christ ? Petite question. Vous pouvez me répondre. Je ne pose pas de piège. Je dis simplement, je pars au départ de ma pensée, de mon étude sur ça. Vous sentez-vous libre ? Libre, libéré. Quand vous arrivez dans la maison de Dieu, mais même quand vous êtes dehors, face aux gens du monde, face à vos frères et sœurs en Christ, face à vos frères et vos sœurs, dans la famille, quel est votre état de cœur que vous sentez-vous libre ? Est-ce que vous vous êtes attaché à quelque chose ou pas ? Comment vous vous sentez face à nous, face à tout ce qui nous entoure ? Quel est votre état de cœur ? Est-ce que vous vous sentez libre ? Quand vous arrivez à l'église, en général, quand on arrive à l'église, on commence à se faire, regarde à vous, on commence à monter patte blanche. Quelle est l'attitude de cœur que vous avez ? Vous sentez-vous libre ? C'est un peu la question que je vous pose. Donc, dans ces versets-là, que je vous ai donnés, quel est le premier que vous mettriez ? Moi, j'ai mis Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Est-ce que vous mettriez celui-là en premier dans votre vie ? Dans la démarche que vous avez eue avec Christ, avec Jésus, est-ce que vous mettriez celui-là en premier ? Il y a Saint-Pice, il va parler. Je sais qu'il me regarde, il me dit...
Ah. Oui, mais moi, selon moi, c'est 1 Corinthiens 6, verset 12.
1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, tout n'est pas utile, mais tout...
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permets à rien d'avoir autour de chez moi.
Toi, tu le mets en premier.
En premier.
Dans ta vie, c'est la première chose que tu mets. Moi, je l'ai mis en dernier. Hein. C'est pas dans ma vie, hein, mais dans la situation des versets que j'ai mis, dans ce qu'ils reflètent, je l'ai mis en dernier dans notre cheminement, lorsque nous avons cheminé en Christ. Alors je vais vous donner moi, et puis on va avancer un petit peu, l'ordre dans lequel j'ai mis et pour quelle raison. Donc j'ai mis le premier verset, c'est Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a libéré, tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Pourquoi j'ai donné ce verset-là? Parce qu'il est rattaché au salut. Ce verset-là est rattaché au salut. Christ est venu nous libérer de quoi? De quoi il est venu vous libérer? Me libérer, moi.
Du péché.
Du péché. Je vais prendre le verset, on ne va pas trop l'enlever du contexte, on va dire ce qui suit après. Parce que tirer un verset d'un contexte, c'est toujours facile. On peut lui faire raconter ce que l'on veut. Mais il faut quand même revenir à l'essentiel, à ce qu'il est, ce verset, mais lorsqu'il a été donné. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais moi, Paul, je vous dis que ce que vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Ce verset, il est donné, Christ nous a libérés de toute loi, et entre autres de la loi qu'il avait donnée au Mont Sinaï. Il nous a libérés de cette loi. Donc, Paul, il va jusque loin, hein, parce qu'il dit, si vous vous mettez sous une loi et si vous commencez à pratiquer la circoncision, qui est une des lois que Dieu avait données, il faut que vous pratiquiez tout. Il faut que vous pratiquiez toute cette loi. Sinon, si vous n'en pratiquez pas une, il dit que cette loi va vous maudire. Donc on est coincé. Mais Paul dit, c'est pour cela que Christ est venu. Parce que cette loi, nous le savons, je ne vais pas m'étaler là-dessus, cette loi est le reflet du péché. Cette loi nous montre ce que c'est que le péché, nous permet de déterminer ce qui est péché. Je redonne la signification du péché. Le péché est faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors on l'a schématisé, Dieu a mis des lois, 12 ou 10 lois, dans un ordre. Mais sachez une chose, ce qui est péché, c'est de faire la volonté autre que celle de Dieu. C'est de faire quelque chose contre Dieu. Ça, c'est quelque chose qui nous sépare. Nous, le monde péché, séparé de Dieu. Donc, c'est ce qui nous sépare. Le deuxième verset qui vient, que je vous ai donné à la suite, j'ai mis Galates 5, 24. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est la conséquence de la croix. Sachez bien une chose. Quand Jésus est monté sur la croix, il est allé vous crucifier avec, à partir du moment où vous l'avez cru. Si vous avez cru par la foi, et non par la loi, si vous avez cru par la foi que Jésus est mort pour vous, à ce moment-là, votre chair est crucifiée. Alors le mot chair, là, il est... On a tendance à penser à notre morceau de viande, hein, qui est là. Mais on va le réduire à quelque chose de beaucoup plus profond de l'être humain, qui est son ego, son moi. Parce que quand vous regardez bien au fond de vous-même, ce qui vous pousse à faire les choses, ce n'est pas forcément votre main qui dit « j'ai envie de faire ça ou faire ». C'est ce qu'il y a au fond de vous, c'est votre volonté, c'est votre moi. J'ai envie de faire ça. Et là, on se trouve devant un gros problème qui s'est passé dans le ciel avec Satan, c'est l'orgueil. Parce que nous allons faire les choses pour nous-mêmes. Et c'est cette chose-là déjà qui nous a séparés de Dieu. Donc, là, l'apôtre Paul aux Galates affirme, appuie et dit, si vous avez accepté en Jésus, si vous êtes maintenant libre de par rapport à la loi, une des premières choses, les raisons pour lesquelles, c'est que votre moi, c'est plus lui qui commande, c'est crucifié avec moi sur la croix. Donc ne l'écoutez pas. Ne faites pas selon la chair. Ne faites pas selon vous-même. Commencez à nous apprendre petit à petit. C'est pour ça que je vous ai mis les versets dans l'ordre, petit à petit. Vous avez accepté la liberté que Christ nous a donnée sur la croix, parce que vous vous êtes senti libre de quoi? De que ce moi-là a été crucifié. Mais là, il n'est plus en vous. Il est resté sur la croix. C'est des affirmations que je vous pose. C'est des affirmations. C'est ce que comment Dieu vous voit maintenant. De quelle façon il vous voit. De quelle façon maintenant, parce que tu as accepté son sacrifice, comment Dieu te voit. Il te voit libre. Il te voit maintenant libre. Pourquoi? Parce que tu as crucifié ton moi à la croix et que tu as accepté qu'il soit là-bas. Troisième verset, c'est Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est mon live verset. Hein. Ça, celui-là, je l'adore. Je l'adore. Parce que celui-là, là, je me le prends, je me le mets dans la poche. Et je le garde bien calé là. Pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une proclamation et gardez-le, prenez-le par cœur. Quand l'ennemi vient, vous commencez à vous condamner. Hein. Et tu te dis, chrétien, t'as vu comment tu fais? Eh mon gars, il n'y a plus de condamnation.
Amen.
Tu viens venir dire quoi avec moi? Moi, Dieu me bat. Je ne suis plus condamné. Il est mort à ma place. Qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Les jeunes, là, quand vous êtes parmi les différents, et tu ne viens pas en boîte avec moi, et tu ne fais pas ceci, et tu ne couches pas avec un thème, et tu n'as pas fait ça, qu'est-ce que c'est ça? Et toutes les idées qui passent. Tu es chrétien, mais tu fais ça. Et moi, je suis libre. Il n'y a pas de condamnation. Tu veux me condamner en quoi? Moi, je ne fais pas ce que tu fais. Parce que celui en qui je crois, là, m'a mis sa vie en lui, son esprit en lui. Donc, aller coucher avec un gars, ça ne m'intéresse pas. Où est le bien là-dedans? Où est la chose qui est mal? Ça ne m'intéresse pas. Encore, moi, je connais quelque chose qui peut te délivrer de ça. Vous comprenez? Ce verset-là, même Satan, là, il vient de t'appeler. Même vos frères et sœurs là, qui viennent de dire, hé, t'as conduit ceci, cela, nanani, nanana. Il n'y a pas de condamnation. Parce que vous verrez que le Saint-Esprit ne vous condamne jamais quand il vous reprend. Reprendre et condamner, ce sont deux choses différentes. Condamner, c'est quelqu'un sur qui on a fait un état des lieux, on a vu ce qu'il a commis, c'est un assassin, il a tué quelqu'un, et maintenant on lui met une sentence collée dessus. La sentence, c'est soit la guillotine, soit c'est la prison à perpétuité, soit c'est des travaux à faire, mais on lui met, il est condamné. Son affaire-là est réglée en justice. Il n'y a plus rien. On ne peut plus revenir. Et quand tu reprends quelqu'un, c'est quelqu'un qui, dans son comportement, est en train de faire quelque chose de mal. Ou quelque chose qui n'est pas, à la, on va dire, dans la pensée de Dieu. À ce moment-là, tu le reprends. Ce n'est pas une condamnation. Le Saint-Esprit ne nous condamne jamais. Il nous reprend. Il nous reprend parce qu'il va le faire avec amour. Je ne sais pas comment vous fonctionnez avec le Saint-Esprit. Mais moi, quand il me reprend, c'est avec douceur, mais avec efficacité. Et en général, ça traîne pas. Je vais vous donner raconter une expérience que j'ai vécue dernièrement. Vous êtes tous comme moi, abonnés à SFR, oui, tout ce qui s'en suit free. Ça vous téléphone tout le temps un numéro inconnu. Allô? Moi, ça fait 10-12 ans que je suis SFR. Ils me connaissent bien, hein? SFR, bon client SFR. Ils commencent à m'appeler par inconnu. Ils m'embêtent avec ça. Une fois, deux fois, je ne réponds pas. Trois fois, je ne réponds pas. Ça commence à me fatiguer. Et à un moment donné, ils me téléphonent. Je ne pouvais pas. J'étais déjà intérieurement en tension. J'ai pris le téléphone. J'ai crié après la personne. J'en ai marre. Je ne veux plus vous entendre. Bam. Tout ce que j'avais au fond de moi est sorti par le téléphone. Je vous garantis que cet aspect n'a pas mis 20 ans. Dans la seconde qui a suivi, il y a une voix au fond de moi qui a dit, mais tu parles comment? Et tu témoignes de quoi avec ta parole? Comment tu fais les choses? La personne là, tu ne la connais pas, elle fait son travail. Et toi, tu veux donner ce témoignage de hurler comme ça dans le téléphone. Quel témoignage tu donnes? Est-ce que c'est le témoignage de l'enfant de Dieu? Hein? Ce n'est pas un jugement, hein? C'était l'état des lieux que Dieu faisait de ce que je venais de vivre. Ah, je me suis vraiment, mon cœur s'est brisé en deux. J'ai dit, Seigneur, pardon. Vraiment, pardon. Vraiment, pardonne-moi. La prochaine fois, là, je vais lui répondre gentiment. Vraiment gentiment. Vous voyez comment le Saint-Esprit peut agir. Il ne nous condamne pas. Il nous reprend. Au moment présent, il nous reprend. Et souvent, soit nous avons la rapidité de s'incliner dans l'obéissance, soit nous allons laisser ça en suspens. Ça va mettre un peu de temps. Mais Seigneur, cet esprit va revenir et va te dire, Là, là, ton action, là, il faut la reprendre. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est ça la condamnation. Donc ça, là, en Jésus, c'est fini. Jésus ne vous condamnera plus. Vous avez accepté, il a porté. Sinon, si vous restez dans cette pensée de condamnation, Paul dit, vous allez le recrucifier chaque fois. Vous allez le reprendre. Vous allez demander à chaque fois qu'il meurt pour vous, si vous êtes chaque fois condamné. Parce que lui, il est venu prendre la place d'un condamné. Si chaque fois vous vous remettez dans la condamnation, vous allez prendre Christ et le remettre sur la croix. Et Paul dit bien qu'il l'a fait qu'une seule fois. Je ne vous ai pas trouvé le verset, mais il le dit. Il a été crucifié qu'une seule fois et pour tous. Le quatrième verset, c'est Romains 6, verset 22. Libéré, crucifié, notre moi est crucifié, je reprends, hein. Plus condamné, maintenant nous sommes des personnes libres. Mais est-ce que, et c'est là où est la définition dangereuse du monde, la liberté, la définition de la liberté, c'est de faire ce que l'on veut, où on veut, sans aucune contrainte. Et c'est surtout pouvoir vaquer à ce que l'on veut faire sans qu'il y ait quelqu'un qui nous donne quelque chose à faire. Et c'est là où ce verset vient et est important, parce que nous allons voir que maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour la fin la vie éternelle. Christ ne va pas vous laisser dans cette liberté-là sans y mettre un cadre. Parce que la liberté sans un cadre, ce n'est plus une liberté, vous allez tomber automatiquement sous l'esclavage de quelque chose. C'est obligé. Donc Christ va mettre en vous la vie. C'est pour ça que par le Saint-Esprit, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Il a dit, moi je vous ai tout effacé, tout enlevé, mais je ne vais pas vous laisser comme ça, tout seul. Parce que vous allez refaire la même chose que vous m'avez fait déjà il y a des milliers d'années là-bas à Adam, avec Ève. Vous allez chercher quelque chose de mieux que Dieu. Vous allez chercher quelque chose pour vous-même. Je ne vais pas vous laisser là, je vais vous mettre ma vie. Et Saint-Esprit a mis la vie dans chacun de nous. Et c'est ça qui est intéressant. Posez-vous la question. Je me suis converti, je suis libéré, je ne suis plus sous la condamnation. Mais est-ce que je suis assis? Ou est-ce que maintenant je suis bien libre? Et maintenant, comme je suis libre, je fais comme j'ai envie. L'apôtre Paul dira ne pas profiter de cette liberté pour faire n'importe quoi. Ne pas profiter de cette liberté pour aller retomber dans le péché, ou retomber dans les choses qui nous séparent de Dieu. Christ a mis en nous un esprit de vie. C'est obligatoire, c'est obligé. Si vous êtes né de nouveau, c'est ce que dit Jésus à Nicodème, si tu es né de nouveau, l'esprit de vie est en toi. Il est venu, Christ a mis en vous un esprit de vie. Et c'est cet esprit de vie qui va vous amener dans une vie de consécration. La vie de consécration, c'est une vie de quoi? D'esclavage. Oui, d'esclavage, mais dans la liberté. Je le dis, c'est une vie d'esclavage dans la liberté. Ça veut dire que vous allez faire les choses par amour et non par contrainte. Consécration, ça veut dire, moi, ça me fait plaisir de faire plaisir à Dieu. Moi, ça me fait du bien de faire plaisir à Dieu. La consécration, c'est d'être mise à part et de se livrer à la personne complètement. Maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu. Le mot est fort dans le mot esclave. Vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Si vous laissez faire le Saint-Esprit en vous, il va vous mettre à part. Je réduis le verset de façon plus compréhensible. Si vous laissez le Saint-Esprit faire le travail en vous, il va vous prendre, vous mettre à part et vous amener à la vie éternelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vie de sanctification. Tout simplement. Je vous colle d'autres mots à ça. Hein. La vie de sanctification, c'est le Saint-Esprit qui vous prend et qui vous met à part et qui vous amène vers l'éternité. Parce que celui qui va rentrer dans l'éternité, là, il faudra qu'il soit consacré à Dieu. Dieu dit que dans son royaume, il n'y a que des humbles. Donc si la chair là, n'a pas été crucifiée, là, et que vous arrivez là-haut au ciel en tapant sur la porte, en disant, moi, j'ai été sauvé, par mois, j'ai fait ceci ou si j'ai fait cela, la porte ne va pas bien s'ouvrir. L'orgueil, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans le ciel. Il n'y a que l'humilité qui rentrera dans le ciel. La suite des versets, Galates 5, 22. Puisque Dieu a maintenant mis son esprit en vous et que vous êtes entièrement libre, vous allez produire quelque chose, du fruit de la consécration. Le fruit de la consécration, c'est quoi ce fruit-là? Nous voyons que dans Galates 5, il est dit, quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. En plus, il n'y a pas de loi. Tant mieux, Seigneur, parce que tu nous as rendu libre. Donc, il n'y a pas de loi. Et ça, ce n'est pas vous qui le faisiez, hein, qui vous le faites en vous. C'est le Saint-Esprit qui va commencer ce travail. Avec votre accord, avec la soumission, avec l'obéissance. Bien sûr, sinon, il ne va pas faire quelque chose contre vous-même. Il ne va pas faire de vous des robots, ni des soldats, pour le plaisir de faire des soldats. Il vous veut entièrement libre jusqu'au bout. Hein. Parce que s'il vous oblige, vous serez plus libre. On sent de la liberté en Dieu. Mais là, il n'est pas parlé de plusieurs fruits, il est parlé d'un fruit. Hein. Au fruit de l'esprit, vous le savez. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. C'est un seul fruit qui est relié dans l'amour. Dans le premier attribut qui est donné du fruit, qui est l'amour. Ce qui nous amène au verset 1 Corinthiens 12, verset 1. Il est faux, ce verset. Ce n'est pas 1 Corinthiens 12, je me suis trompé. Ce n'est pas 1 Corinthiens 12, c'est 1 Corinthiens 13. Ce n'est pas 1 Corinthiens 12, c'est le verset qui parle de l'amour, c'est 1 Corinthiens 13, verset 4. Je me suis trompé. Je me suis dit, tiens, il y en a un qui va me le dire.
Ça va tout, papa. Ça va tout, ça.
Et là, nous voyons maintenant les attributs de l'amour, de notre consécration. Ce en quoi le Saint-Esprit va nous amener. Il va nous amener à la patience, à la bonté, à la non-jalousie, à la non-rentardise. Donc ça veut dire le moi, là, il est vraiment effacé. Je me suis dit, il n'est plus là. L'orgueil, plus d'orgueil. Il ne se fait rien d'un inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne se tient pas compte du mal. Celui-là, c'est un des plus difficiles à faire émettre de nous. On ne soupçonne pas le mal. D'autres versions disent, il ne soupçonne pas le mal. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne pensez pas qu'il vous veut du mal. C'est resté dans cette pensée-là que le Saint-Esprit veut nous emmener jusqu'au bout. Il espère tout, il endure tout, et il ne meurt pas. Ah, ça c'est intéressant. Le Saint-Esprit a travaillé en moi ce sentiment pour l'emmener jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Ceux qui vont rentrer dans le ciel seront aussi ceux qui aiment Dieu et aiment les autres. Parfaitement. Parfaitement. C'est le fruit. Je vous ai mis des étapes. Hein. C'est pour ça que je les ai mis dans cet ordre-là. Ça fait des étapes dans nos vies. Et ça permet de nous positionner. Je suis dans quel état? Le Saint-Esprit fait quoi avec moi? Est-ce que je suis encore à crucifier ma chair avec Christ? Ou est-ce que je suis... Les fruits commencent à venir. Les fruits de l'Esprit. Alors, il y a une chose qui est quand même, moi, dans le regard que j'ai de chacun de nous et de moi-même, c'est que le Saint-Esprit ne travaille pas en nous de la même vitesse. Il y en a certains, il leur faut beaucoup plus de temps. Le Saint-Esprit met le temps qu'il faut pour aller chercher ce qu'il faut, pour rectifier, pour amener à ce que lui veut. Puis il y en a d'autres, c'est une version rapide. Hein. Et hop, après, il s'assoit. Il n'y a plus rien qui se passe. Il dit, le frère, il est bien, ceci, cela. Mais là, à ce niveau-là, il y a un problème. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas notre job. Moi, je n'ai pas mon job de savoir si Hubert, dans sa vie de sanctification, il a tel ou tel endroit. Moi, je sais que de toute façon, Christ va l'emmener jusqu'au bout. C'est lui qui a commencé son œuvre, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui a commencé l'œuvre dans la vie de Hubert, ainsi que dans votre vie. Je n'ai pas à juger. C'est pour ça que les apôtres diront et Jésus diront, ne jugez pas. Ça ne nous sert à rien de juger. Vous êtes dans le même processus qu'eux. Que chacun, on est dans ce processus de sanctification. de l'esprit en nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter qu'il travaille en nous. Donc être en mouvement avec lui. C'est la seule chose. Et nous arrivons au verset, donc. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Mais celui-là, je l'ai mis en dernier. J'en ai mis un avant. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Ça, c'est une volonté. Saint-Esprit, tu travailles en moi. Je veux bien que tu travailles en moi. Ah, il va vous rendre ce qu'il a envie, hein. Mais si c'est pour rester assis, si c'est pour rien produire en dehors de vous, il va s'arrêter. Je vous dis de suite, il va s'arrêter. Parce que lui, le commandement que Dieu lui a donné, il a dit, je t'envoie sur la terre pour appuyer l'évangile.
Amen.
La bonne nouvelle.
Amen.
Donc s'il lui rencontre des personnes qui veulent juste rester comme ça, se faire du bien eux-mêmes, il dit, mon travail, il est où? Je vais m'asseoir. Parce que son but à lui, c'est de vous rendre ce que lui, il est.
Amen.
La puissance de Dieu. Manifester Dieu dans toute sa puissance sur la terre. Ce que cet esprit veut aboutir avec nous. Hein. Alors, moi, j'adore. Je vous dis franchement, le Saint-Esprit, il est au top pédagogiquement. Comme on se sent faible, on se dit, Seigneur, j'en peux plus. Il se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il a essayé pour moi, tu ne comptes pas sur toi. Et là, tu te dis, ah, Seigneur, tu existes, et ça te fait du bien. Quand on commence à dire, je suis à l'aise avec le Seigneur, ça va bien, le Seigneur m'a appelé à quelque chose, ça se dessinait sur moi, attends-toi à ce qu'il y ait un gros caillou qui te fasse mal aux pieds. À un moment donné, il va s'arrêter, il va te dire, bon, je peux regarder comment tu fais. Et là, tu te rends compte que ça avance pas. Tu pries, il n'y a rien qui descend du ciel. Tu secoues terre et mer, tu secoues tout le monde. Il n'y a personne qui se passe. Mais cet esprit, il est moi, là. Tu m'as oublié. Je suis ton compagnon de. C'est en moi que je dois te confier.
Amen.
Vous verrez dans votre marche, c'est souvent comme ça. Vous allez passer par des déserts. Hein. C'est dire, Seigneur, j'en ai marre de ton désert. Mais qu'est-ce que j'en ai marre? Mais j'en ai marre de ton désert. Mais j'en ai marre. Vous savez ce que tu dis? Seigneur, je suis maintenant plus que toi et moi. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a coupé. J'ai plus rien. Maintenant, c'est soit on marche ou on crève avec toi. Et là, tu te dis, Seigneur, c'est un peu comme Élie. Vous savez, Élie. Élie, on a voulu le zigouiller. Hein. Et puis, il est allé, il a dit, maintenant, je veux mourir. Il allait faire sa petite dépression. Il a pris son caillou, il a posé sa tête sur son caillou. Il a dit, je n'attends qu'une seule chose, que tu me retires la vie. Puis, un ange est venu, hein, il n'a pas dit, hé, Élie, soulève-toi, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais, soldat qui dort? Non, non, il a dit, mange un peu. Parce que moi, ce qui m'intéresse, là, c'est pas ton état, c'est ce que je veux faire avec toi. Donc, mange un peu. Et si vous lisez la fin de l'histoire, vous allez voir que la nourriture qui a été donnée à Élie pendant 40 jours, il va marcher. Il ne va pas s'arrêter pendant 40 jours. Il s'en va avec cette nourriture. Mais c'est exactement la même chose que le Seigneur nous fait. Il nous amène à des moments dans notre vie de sanctification, dans des petits déserts, où on campe bien, où on hurle bien. Et ça, c'est pour amener notre chair à être totalement crucifiée. Vous voyez bien qu'il n'y a pas, j'ai mis ça dans un ordre, mais le Saint-Esprit, il agit. Parce qu'il vous connaît. Vous êtes tous différents les uns des autres pour lui. Donc il sait par où vous prendre. Le but, c'est de ne pas rester assis, mais c'est de le laisser agir pour nous. Et nous arrivons donc au dernier verset. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Quand je suis tombé sur ce verset-là, j'ai dit, yeah, bingo. Ça c'est le temps. Ça c'est le temps. Moi ce cadre-là, comme toi, c'est plus. J'adore. Moi ça me plaît bien. Parce que pour l'apôtre Paul, il explique en quelques phrases ce que nous sommes réellement aux yeux de tous. Du monde spirituel, du monde des anges, du monde qui nous entoure visuel. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu te dit, tu es entièrement libre. Maintenant, tout ce qui s'offre à toi, est-ce que tout est permis? Tout est utile. Est-ce que tout est utile à quoi? Dans mon royaume, est-ce que tout est utile dans ce que dans ce qui te propose à toi? Devant toi, ce qui se propose à toi, est-ce que c'est utile dans mon royaume? Est-ce que c'est utile dans ma marche avec toi? C'est la question que Paul pose dans la liberté que nous avons. Demain, je peux me retrouver en botte de nuit, demain je peux me retrouver dans des endroits où brille pas Dieu, mais Dieu est en moi. Mais est-ce que c'est utile que j'y sois? En quoi c'est utile? Donc ça nous fait toujours poser la question au Seigneur, si je m'en vais là, ou si je me retrouve là, pour quelle raison? Est-ce que c'est vraiment utile? Si c'est pour moi, j'ai rien à faire là. Si c'est pour Dieu, c'est que tu m'as envoyé. Alors est-ce que tu m'as vraiment envoyé? Si tu m'as vraiment envoyé, donne-moi les armes qu'il faut pour être dans ce monde-là, dans cet endroit-là, qui n'est pas à ta gloire.
C'est ça.
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Demain matin, moi je vous dis ce qui m'est arrivé. On m'a invité, un musulman m'a invité à manger de la viande. Enfin, joli couscous. Couscous halal. Moi, ça me pose un problème, couscous halal. Alors, tu commences à discuter avec tes frères et sœurs, à droite, à gauche. Et tu sais quoi? Les imams, là. La viande halal, là. Il y a des prières, hein? Dessus, là. Ah oui, tu as mangé ça avec un musulman. Et tu as mangé de la viande, là, c'est presque sacrifié aux idoles. On le ressort, c'est le problème des Galates, là. Hein. Si vous lisez l'histoire des Galates, c'est un peu le problème qu'ils avaient. Et j'ai dit, mais moi, je suis libre, Christ. D'abord, tout ce que je prie est pur. Moi, je peux sanctifier tout ce que tu veux, apôtre Paul. Maintenant, l'apôtre Paul dit, fais toute chose pour que le royaume de Dieu soit annoncé. Moi, je suis libre face à ça. Si c'est pour aller manger de la viande et dire, maintenant, je veux vivre comme un musulman, ça, c'est différent. Vous comprenez? Maintenant, si c'est pour dire, attends, mon frère, t'es musulman, moi, je viens manger ta viande, ça ne me pose pas de problème. Mais je vais t'annoncer autre chose de mieux. Quand tu dis, quand tu vas mourir, tu vas retourner au ciel, trouver 40 vierges ou je ne sais quoi. Et là, comme tu as bien vécu, tu as été un homme bien droit, hein, tu vas avoir la vie éternelle. Moi, je dis, moi, la vie éternelle, je n'ai pas de mourir pour l'avoir. Je préfère l'avoir ici sur la terre. Ce qui m'est arrivé un jour pour leur expliquer. Vous voyez comment on peut se positionner? On peut se positionner selon ce que Dieu veut. On est, un instrument dans les mains de Dieu. Donc tout m'est permis, tout n'est pas utile. Selon Dieu. Si Dieu vous place là, tu seras utile, tu te donneras, tu seras utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Là, c'est ma position. Dieu dit notre position, ce que nous sommes spirituellement, nous sommes libres. Dieu nous dit, est-ce que cette liberté, tu t'en fais quoi? Est-ce qu'elle est là pour m'adorer moi, ou pour t'adorer toi, ou adorer les autres? C'est la deuxième partie de ce verset. Mais tout n'est pas utile, mais tout m'est permis, mais moi, et toi, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de cette liberté? Je ne veux surtout pas me mettre sous le joug de quelque chose. Alors là, il y aurait de quoi parler pendant des heures et des heures. Dans nos églises, en dehors de nos églises, dans nos familles, on est souvent conditionné par des choses que nous faisons. Attention. Attention dans quel but nous le faisons. C'est toujours au cœur que le Seigneur regarde. C'est toujours, toujours au cœur que le Seigneur regarde. Toujours. Les buts, lui, ce n'est pas vos faits et gestes. Il viendra pour les raisons pour lesquelles vous le faites. C'est ça qui l'intéresse. Parce que ça reflète ce que vous êtes. Alors, choisissons bien sous quel esclavage nous voulons être. Si Christ nous a affranchis, nous a rendus libres, ce n'est pas pour se mettre sur un esclavage que nous-mêmes, nous allons créer. Je vous rappelle, je prends nos frères juifs, quand la Torah a été donnée, la loi a été donnée au Mont Sinaï, elle a été faite pour montrer dans quel état ils étaient, et pour qu'ils soient une lumière dans le monde. C'est ce que dit la parole de Dieu. Eux, ils l'ont pris pour se justifier. Ce n'était pas le but de la loi. Autre point, l'explique bien. Ce n'était pas le but de cette loi. Ce n'est pas parce que je pratique la loi que je suis juste. Je suis juste parce que j'ai accepté Jésus sur la terre. Donc, ils sont encore à l'heure actuelle dans l'erreur, dans l'application de leur loi. Et vous voyez dans quelles contraintes ils se sont mis. Pour faire ceci, pour faire cela, pour faire Shabbat, pour faire ceci, c'est toute une histoire. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas marcher, on ne peut pas prendre une voiture, on ne peut pas faire. Non. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. ne construisons pas autour de nous des lois, mais soyons libres, ensemble, libres devant Dieu. Et pour conclure, je vais vous donner un verset qui n'est pas, je ne vous ai pas donné, qui est dans 1 Corinthiens 6, verset 11. L'apôtre Paul, dans ce verset-là, dans 1 Corinthiens 6, 11, il parle de ce que nous étions. « Savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. » Et c'est ce verset que je voudrais vous laisser en conclusion.
Papa, c'est ça.
Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est notre. D'où nous venons. Rappelons-nous d'où nous venons et comment nous sommes arrivés au point où nous en sommes sanctifiés. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre volonté. C'est par la volonté du Saint-Esprit. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Vous avez été sanctifiés, mis à part pour quelque chose. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, trouvés juste. Il n'y a plus de condamnation. Gardons bien ça en nous. Et que notre frère que nous regardons, nous le voyons aussi de cette façon. Il a été aussi lavé. Il a aussi été sanctifié, il a été aussi justifié. Rappelons-nous d'où nous venons et ce que Dieu a fait dans nos vies. Et avançons. Laissons jaillir en nous cet esprit de vie que nous avons. De façon que nous puissions témoigner de lui. Vous savez, nous vivons des moments difficiles. Nous allons vers des choses difficiles. Efféminé, on trouve ça normal. Homosexualité, on trouve ça normal. Tout ce qui était pour nous, avant, des choses anormales, on les trouve normales. Et elles le sont toujours pour nous anormales. J'ai cité ce verset d'homosexualité n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut savoir que dans certains pays, même bien civilisés, si vous dites ça en péchant, vous prenez la prison. Au Canada, dans certains états des États-Unis, si vous péchez de cette façon-là, vous avez des fortes chances de vous retrouver en prison pour avoir dit ça. Le monde qui vient vers nous est un monde qui montre sa vraie figure, comme quoi Satan est derrière. Et Satan va vouloir nous faire tomber dans plusieurs choses. Je veux juste finir ça parce que nous vivons ce temps-là et nous les voyons venir. Et il y a des jeunes parmi nous qui vont continuer à vivre sur cette terre avec ça. Je ne veux pas vous décourager. Je veux simplement vous dire, positionnez-vous bien. Parce que même dans la religion, Satan va venir mettre son nez dedans. Même là-dedans, il va mettre son nez. Même il va commencer à parler. À dire, hey, moi aussi, je suis un dieu. Vous savez, on est en train avec les musulmans sont en train d'envahir un peu partout. Il ne faut pas avoir peur des musulmans. Hein. Parce que les musulmans sont des hommes comme nous, des créatures de Dieu. Dieu nous les a créés. Mais ils sont sous l'emprise. Et que notre liberté que nous avons, notre assurance que nous avons, notre espérance en la vie éternelle, celle qui est la vraie, que nous puissions la communiquer. Alors, une chose, moi, le Seigneur m'a repris encore dernièrement. Moi, j'annonce l'évangile. Annonce pas un Dieu. Annonce Jésus. Dieu, là, ils connaissent. Ils connaissent Dieu. Allah, ils connaissent. Ils emploient son nom à longueur de journée. Mais Jésus, ils ne le connaissent pas. Celui qui est venu les libérer. Celui qui est venu pour montrer le chemin qui amène à la vie éternelle. Ils ne le connaissent pas. Et ce monde-là, Satan, va s'engouffrer pour que le nom de Jésus ne soit plus jamais prononcé sur cette terre. Ça va être masqué sous une forme de religion. Ah, il y aura les œuvres. Il y aura tout l'aspect. Et quand vous allez gratter derrière, vous allez trouver des choses ineffables. Quand vous grattez derrière les musulmans, quand vous grattez derrière ce qu'il y a derrière le Coran, la pratique, les gens disent on tue pour Allah, on tue pour ceci. Mais on est prêt à faire la pédophilie, on est prêt à faire l'homosexualité, on est prêt à faire cela. Où est Dieu dans l'histoire? Que nous sachions où nous sommes, notre position. Les jours viennent, je vous dis ça parce que, et dans le peuple juif, nous savons que c'est un signe que Jésus revient. Je vais vous donner cette information. Il y a eu 3000 juifs qui sont partis de France. À l'heure actuelle, il y en a 100 000 qui ont fait leur demande. On est passé de 3000 à 100 000. Pour que la France. Donc le temps, le chrono de Dieu est en train de s'accélérer tout doucement. Donc il faut se mettre à l'œuvre. Et vous savez, moi j'ai pris pour ma vie la partie de quelque chose. Je ne suis ni juif, ni grec, ni français, ni ceci, cela. Je suis enfant de Dieu. Et celui qui a besoin d'être, que l'amour de Dieu soit manifesté, je le manifeste. Que ce soit un arabe ou que ce soit un juif. Pour être que je sois juste aussi, mais l'amour de Dieu qui doit être en moi doit être manifesté à tout être humain, quel qu'il soit. Ça aussi, c'est une position à tenir. Parce qu'à des moments donnés, on va vous attirer un coup à droite, un coup à gauche, et toi tu penses quoi? Et des Palestiniens, et des ceci, et des cela, et des minorités, on va vous articuler, on va carrément vous couper en deux hein, avec ça, vous savez plus vos sentiments, vous savez plus quoi en faire. Et Christ il est venu pour tous, et nous annoncer l'origine pour tous, avec justice, avec vérité, nous annonçons Jésus. Il n'y a que lui. Les dieux, là, on peut s'en fabriquer, mais il n'y a que lui. Les philosophies, on peut en fabriquer, mais il n'y a que Jésus qui peut libérer complètement. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Merci, notre frère. Bartholomew, est-ce que tu peux donner deux nouvelles brèves pour ta maman et puis ton frère, rapidement?
Alors, ma maman va très bien. Parce qu'elle peut aller très bien de ses 87 ans. Ça veut dire dans son fauteuil roulant et avec sa main paralysée. Donc, c'est. Je pense pas à ça.